Aujourd'hui, en prenant l'apéro, j'ai le privilège de m'entretenir avec deux femmes dont la mission d'entreprise est littéralement de sauver la planète. J'ai le plaisir donc de m'entretenir avec Sandrine Milante, présidente et CEO d'Ecolofarm, une belle entreprise située à Chambly, et Cynthia Savard, propriétaire et designer d'Oraki, située à Montréal. Alors, Sandrine et Cynthia ont créé des entreprises vraiment formidables, basées sur des valeurs d'éco-responsabilité, de réduction des déchets et d'achat local. Par leur approche, elles invitent les consommateurs à revoir leurs habitudes afin de réduire leur empreinte sur notre belle planète. Bonne écoute. Et bonjour, mesdames. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à En prenant l'apéro.
Avec plaisir, c'est vraiment un plaisir. Merci à toi de l'invitation.
Merci à vous deux. L'épisode d'aujourd'hui, je le trouve vraiment important. Puis, tu sais, on a trouvé là, des thèmes cette année, ce qu'il n'y avait pas l'année dernière, parce que, ben, on veut vous découvrir, évidemment. On vous met en commun parce que vous ne vous connaissez pas, puis c'est ça la beauté de la chose, ça rend les échanges plus spontanés. Mais on parle aussi d'un thème, d'une thématique à chaque fois. Aujourd'hui, c'est sauver la planète parce que c'est un peu ce qui guide chacune ce que vous avez, vos entreprises elles-mêmes. Je ne sais pas si c'est du début de la création, c'est ça que j'aimerais qu'on découvre. Donc, ben voilà. Alors aujourd'hui, j'accueille Sandrine Milante, qui est présidente et CEO d'Ecolofarm, et Cynthia Savard, propriétaire et designer d'Oraki. Deux entreprises, vraiment des belles entreprises québécoises. Et je veux vous entendre là-dessus, justement. J'aimerais premièrement que vous me parliez de ce que c'est que votre entreprise. Tiens, Sandrine, je vais commencer par toi. Puis qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver, Ecolofarm, s'il te plaît?
En fait, Ecolofarm, ça fait de l'éco-design et de la fabrication de produits d'emballage pour les médicaments de prescription en pharmacie. Donc, nous, si tu me demandes est-ce que le développement durable ou la mission de sauver la planète, quand est-ce que ça a été intégré? Bien, ça a été intégré au jour 1 parce que c'est justement un constat lié au fait qu'il n'y avait pas d'innovation dans ce milieu-là depuis longtemps, puis que c'est très, très, très générateur. L'emballage de médicaments est très générateur de déchets. Puis nous, l'objectif était justement de s'attaquer à ce problème-là. Puis l'entreprise est née avec cette volonté-là.
Wow! Donc, c'est vraiment au cœur même des débuts. Là, ça part là, de journée numéro 1. C'est ça, c'est la base.
C'est la mission complète, c'est de révolutionner le monde des pharmacies puis de changer la façon dont les gens perçoivent l'emballage de leurs médicaments.
Wow! Merci infiniment. Puis toi, Cynthia, je pense, je connais un peu la réponse, mais quand même, de ton côté,
est-ce que... Mais oui, ça ressemble justement un peu à Sandrine. Félicitations, Sandrine. J'imagine toute la pollution qu'on a avec les médicaments, les emballages de plastique, ça, c'est incroyable. Donc, merci pour ce que tu fais aussi. Mais mon histoire ressemble aussi parce que dans le sens que moi, je viens du milieu de la mode. J'ai travaillé dans l'industrie, ça fait maintenant plus que bientôt 16 ans. Donc, tu sais, j'ai travaillé toutes sortes de fibres aussi dans le fast fashion. Donc, je me suis sortie de ça par moi-même pour vraiment commencer ma propre entreprise. Et je suis végane également, maman de deux jeunes enfants. Donc, pour moi, ça fait partie de mon ADN, dans le fond, de vraiment faire attention à tout ce que je consomme, même au niveau de la nourriture, au niveau des vêtements, au niveau de tout, de faire attention par la pollution par le plastique et tout genre de pollution. Donc, quand j'ai décidé de partir mon brand, alors c'était sûr que c'était le point numéro un. Là, je devais absolument utiliser des fibres qui viennent de matières recyclées, mais aussi des fibres véganes.
Mais c'est quoi exactement que tu fais? C'est quoi?
Ah, qui? Ouais. OK, excusez-moi, d'abord, j'ai mal compris la question. Pas du tout,
mais c'est très intéressant. Puis là, tu m'amènes à ma deuxième question après.
OK, bon, j'ai répondu la deuxième. Parfait. OK, donc moi, nous, on crée des vêtements faits ici au Québec à partir de matériaux recyclés. Donc, tout est fait à partir de plastique recyclé, de nylon recyclé ou régénéré, et aussi à partir de fibres bio. Donc, on utilise aussi le maïs, qui est une fibre Sorona qu'on utilise, ça fait maintenant 1 an et demi. Puis on travaille d'autres genres de fibres, mais c'est des fibres qui sont plus difficiles à travailler.
OK. Wow. Puis c'est très beau, hein? Tous les tissus, dans le fond, là, les designs, là, je sais pas comment... J'ai pas ton expertise, évidemment, j'ai pas ton langage, là, mais c'est tellement beau, c'est spécial. Ouais, c'est vraiment beau. Toi,
ça, esthétiquement parlant, c'est mieux qu'une fiole de médicaments, c'est clair.
Ah, oh, merci.
Mais toi, ça, Sandrine, excusez-moi, parce que des fois, ça coupe, on est juste pour les auditeurs, on est en Zoom pour s'enregistrer. Éventuellement, un jour, je vais avoir un beau studio avec des micros, puis on va pouvoir tout mixer ça par la suite, mais je m'excuse, la technologie, elle est là pour nous. Mais toi, Sandrine, parce que bon, toi, tu parlais quand tu as créé Araki, tu viens du fast fashion et tout ça, mais toi, Sandrine, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a emmené jusque-là?
Je pense que j'étais très, très loin de me destiner à ça parce que moi, en fait, j'ai fait mes études jusqu'à ma maîtrise en communication politique. Donc, j'étais vraiment complètement ailleurs. Je m'enlignais pour prendre une grosse charge de cours à l'Université de Montréal, puis, tu sais, genre, rester dans le milieu universitaire, j'aurais été très heureuse. Mais en fait, non, je me rends compte aujourd'hui que fort probablement pas. Mais j'ai décidé d'aller donner un coup de pouce dans une entreprise familiale que mes parents avaient montée et qui faisait de la transformation de matières plastiques. Et c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à Cynthia parce que je me suis retrouvée dans ce milieu-là. Moi, c'est par accident. Toi, tu avais la volonté de l'amour, de la mort, j'en doute pas. Moi, c'est vraiment un accident. Puis comme j'ai tu donnes un coup de pouce dans une entreprise familiale, puis tu te rends compte que tout le brode passe dans l'engrenage, puis tu peux plus partir. Fait que je me suis retrouvée en 2000, puis en 2008, je me suis retrouvée vraiment avec la direction générale complète de l'entreprise, puis mes parents qui sont venus mettre les clés sur mon bureau en disant « Ouais, t'as veux-tu être à toi, nous autres, on s'est acheté une maison au Mexique, puis ciao!
Oh. » Ah!
Puis ben le constat, c'était « Sais-tu quoi? Non, j'en veux pas! » Parce que moi, transformer du plastique bêtement, là, non, je veux pas ça! Et j'ai pris l'entreprise familiale avec justement cet objectif de passer le bulldozer dedans puis de recommencer. Puis c'est de là, un an après, que Ecolofarm est né. Il y a eu près d'une quinzaine de brevets déposés sur des designs de produits qui étaient vraiment dans un milieu où on fabriquait déjà. Puis c'était vraiment une catastrophe environnementale là, constatée à tous les jours. Et... on a réorienté complètement l'entreprise avec cette orientation, cette vision de développement durable et d'éco-responsabilité. Puis ben, la première chose qui nous distinguait, c'est qu'avant que Ecolofarm lance sa première génération de fioles de médicaments sur le marché, il n'y avait aucune fiole au Canada qui était fabriquée en polypropylène. Tout était en polystyrène non recyclable. Donc déjà, nous, juste ce constat-là, c'était de dire si au moins... ça pouvait être recyclé. On a été les premiers à lancer un produit qui est en polypropylène. Dans l'année qui a suivi, il n'y avait plus aucune fiole de médicaments en polystyrène au Canada. Tous les fabricants ont converti leurs produits en polypropylène. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est la mission de l'entreprise, c'était de révolutionner le monde de la pharmacie. Bien, day one, c'est ça qu'on a fait parce que ça a forcé l'ensemble des manufacturiers de fioles de médicaments à sortir un produit qui serait au moins recyclable. C'est loin d'être éco-responsable, éco-conçu, puis tout ce que nous, on a mis en place, mais au moins ça. On a changé en moins d'un an le marché au complet. Et aujourd'hui, wow, on est le plus gros manufacturier de fioles de médicaments au Canada, justement parce que tranquillement, on a réussi à faire en sorte qu'il y ait une pharmacie sur trois au Canada, même un peu plus, presque une sur deux maintenant, au Canada qui commence à voir l'intérêt d'avoir un produit qui est réfléchi différemment puis qui limite l'empreinte environnementale dans la gestion de sa fin de vie.
Mais moi, je trouve très courageuse toutes les deux de lancer justement des entreprises de cette nature-là avant que ça soit... C'est pas à la mode, là, c'est pas ça le mot que je veux utiliser, mais en tout cas, vous êtes vraiment des défricheuses toutes les deux. Parce que maintenant, les gens sont comme plus conscients. La pandémie y a contribué assurément. On est plus conscients de tout, le GIEC, ses rapports. On dirait qu'on est plus prêt à les entendre. En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire encore, là, on s'entend là-dessus, mais vous êtes des défricheuses toutes les deux, littéralement. Mais toi, Cynthia, justement, toi aussi, tu as parti ça, puis ce que tu fais, ce que tu crées, tu le produis ici. C'est un peu comme toi, Ecolofarm, c'est la même chose. Vous produisez ici. Toi, tu produis ici, hein, Cynthia?
Oui, exactement. On travaille avec plusieurs. En fait, je n'ai pas d'usine de confection à moi. Là. Nous, on est vraiment un bureau ici, mais on a plusieurs usines de fabrication avec qui on travaille en collaboration. J'en ai en Beauce, j'en ai à Longueuil. Donc, c'est vraiment tout est fait ici au Québec. Ouais.
Ouais. Fait que donc, tes fournisseurs et tout ça, c'est tout fait ici. C'est en impartition, j'imagine?
Mais en fait, il n'y a personne qui transforme le plastique en filament ici, comme au Canada. Donc, je dois acheter, si on veut, mon fil de plastique ailleurs. Là, nous, on travaille avec une grosse entreprise qui s'appelle Reprieve, qui est un pionnier au niveau des États-Unis. C'est vraiment là que le plastique est transformé. Puis avec la fibre Reprieve, là, on peut créer nos matières premières. Puis moi, je suis d'accord avec nos matières premières. C'est avec ça qu'on va créer nos vêtements ici au Québec.
OK.
Mais c'est du travail de défricher, c'est du travail d'éduquer et de défricher vraiment, de sensibiliser les gens à la différence de ce qu'on fait. Parce que je pense que dans le développement durable, le greenwashing est malheureusement, c'est encore très, très présent. Puis tout le monde n'a pas la même compréhension quand on parle justement d'un produit qui est éco-designé, qui est avec un processus industriel qui est réfléchi pour pouvoir réduire l'empreinte carbone. C'est pas la même chose qu'un produit qui est recyclable.
Non.
C'est dans les 12 dernières années, nous, on a vu vraiment une transformation du mindset des consommateurs à mieux comprendre quelle était la différence, puis qu'on soit capable de dire c'est le processus qui est important. Moi, je donne toujours l'exemple. Moi, si tu décides à la fin de ta prescription de jeter ta fiole de médicaments par ta fenêtre d'auto, je ne peux pas t'empêcher. Je ne peux pas, mais si tu le fais avec ma fiole, tu auras quand même eu 55 % moins de dégagement de GES qu'en le faisant avec la fiole du compétiteur. Fait que c'est de dire, commençons par contrôler ce qu'on est capable de contrôler, nous, à chacune des étapes de notre processus, dans notre approvisionnement, dans notre transformation industrielle, dans notre logistique, dans nos emballages, etc. Commençons par bien contrôler déjà ce qu'on fait nous, réduire notre empreinte environnementale. Puis oui, mettons évidemment un produit sur le marché qui est facilement recyclable et recyclé, mais en bout de ligne, ça, c'est la dernière responsabilité qui nous échappe souvent. Donc, on ne peut pas... Il faut qu'on arrête de se cacher en arrière de cet élément-là, puis qu'on soit vraiment en mesure d'avoir un contrôle sur l'ensemble du processus en amont pour réduire notre empreinte environnementale puis offrir une solution qui soit vraiment éco-responsable, pas juste recyclable.
Oui, oui, tout à fait. Puis, est-ce que, tu sais, justement, là, tu parles de greenwashing puis tout ça, tu sais, c'est quoi la valeur ajoutée que vous voyez pour votre entreprise à avoir intégré ça dans votre modèle d'affaires, dans votre mission là, dès le départ? Qu'est-ce que vous voyez comme valeur ajoutée qui n'est pas justement...
Ben, tu sais, moi, j'en ai plusieurs. Je pense que juste le fait de fabriquer ici, c'est même, mettons, qu'on oublie les fibres recyclées, juste le fait de fabriquer des vêtements ici et d'avoir une marque comme la nôtre qui est assez populaire, qui va inciter, tu sais, que la cliente, elle va venir acheter, par exemple, un legging chez nous ou un hoodie, puis qu'elle va pas magasiner, par exemple, dans les grands magasins, tu sais, de fast fashion. Ça fait déjà comme une énorme différence. Après, on ajoute, tu sais, on ajoute tout le recyclé, puis les fibres bio à ça. Bien, ça aussi, ça fait une différence au niveau de la terre quand le vêtement est fini ou, tu sais, comme, qu'est-ce qu'on réutilise, qu'est-ce qu'il y a déjà été créé en position sur la terre comme le plastique qu'on réutilise. Donc pour nous, c'est des valeurs qui sont importantes. Là.
Mais si on regarde, moi, souvent, ce que je dis, le développement durable, dans le domaine manufacturier en particulier, le développement durable, c'est de l'optimisation à un autre niveau. Tu sais, je donne souvent l'explication aux gens de dire, si moi je vous dis que j'ai réduit de 35% la quantité de matières premières utilisées pour faire mes produits, que j'ai éliminé 40% de mes emballages de carton, que j'ai complètement éliminé les sacs de plastique de tout mon processus, qu'on utilise 55% moins d'électricité à la fabrication, est-ce que vous ne pensez pas que ça me ramène une rentabilité plus importante? J'ai éliminé tout ce qu'il y avait en gaspillage. Fait que ça a un poids. Aujourd'hui, on le mesure, puis on le mesure en poids environnemental, mais à la base, il y a un poids en dollars aussi. Oui. Fait que c'est d'être capable de dire, le développement durable, quand il est bien fait, puis quand il est intégré dans un processus complet, c'est hyper payant. Si quelqu'un, par exemple, arrive puis dit « Ouais, OK, ben là, moi, je fabriquais tel produit en plastique, fait que là, maintenant, je vais le changer de matériel simplement. » Fait que tu n'as pas réfléchi à ton processus au complet. Ça se peut que ton matériel, il te coûte plus cher. Tu t'achètes une bonne conscience d'avoir changé de matériel, mais il te coûte plus cher. Fait que tu n'as aucun intérêt économique à faire le changement. Tu le fais pour un coup de marketing, parce qu'en termes de rentabilité, tu viens de te tirer dans le pied. Puis si tu mesures véritablement ton impact environnemental global, tu vas te rendre compte que c'est peut-être pas le meilleur choix que tu avais à faire. Fait que c'est là où il faut être capable de se re-questionner sur chacune des étapes de ce qu'on fait dans notre entreprise pour dire là, ça a un impact positif. Ici, c'est un impact positif là, etc. Puis c'est là que ça devient rentable.
Oui, puis tantôt, tu disais, Cynthia, que toi, tes produits sont faits, sont pas faits à même tes bureaux. Je veux dire, c'est pas c'est ton emplacement. Tu confies ça à l'externe et tout ça. Mais dans ce que tu viens de dire, Sandrine, donc, comment tu fais pour justement... contrôler une partie de ça. Est-ce que quand tu embauches des fournisseurs, justement, tu leur demandes, tu as des exigences sur les procédés? Ben, ça doit, là.
Oui. En fait, juste le fait de travailler avec des usines qui sont ici au Québec, on a un œil direct sur ce qui se passe. Et nous, on y va quand même assez souvent. C'est sûr qu'en Beauce, on se trouve à ne pas y aller à chaque semaine, mais on parle à chaque jour avec eux. On fait des zooms avec eux aussi. En Beauce, j'y vais à chaque année. Puis sinon, lui vient aussi. Mais à Longueuil, on y va presque à chaque semaine. C'est notre plus grosse usine avec laquelle on fait le plus d'unités. Donc, c'est sûr qu'on a un œil sur ce qui se passe. Mais tu sais, à la limite, on n'est même pas comme stressé parce que c'est des bonnes personnes, ils ont des bonnes conditions. On reste ici, ils ont des exigences. C'est pas comme dans d'autres pays, par exemple. Donc, ouais. Donc oui, puis de toute façon, nous, on fournit les matières. C'est pas eux qui vont comme choisir comme des accessoires sur mettre sur les vêtements, par exemple. Moi, je fournis tout. Donc, quand j'envoie, par exemple, un chandail, un hoodie, un legging, par exemple, ben, le fournisseur, il choisit rien. C'est vraiment tout moi qui ai acheté. J'ai acheté mon fil, j'ai acheté mes accessoires. Donc, lui, il y a juste à le construire, si on veut. Donc, puis bien sûr, avant d'aller en production, ben, on va toujours donner notre approbation sur les échantillons. Donc, on va recevoir plein d'échantillons puis on va donner notre accord, tu sais, sur la production. Donc, non, tout est très bien. On est vraiment bien organisé. Puis comme je disais au départ, c'est sûr que moi, ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Donc, je sais comment ça marche, tu sais. Donc, voilà.
Oui, puis tu sais, moi, je salue ça, que vous fassiez ça ici. À quel point, tu sais, on entend souvent justement des entreprises qui vendent des vêtements, puis c'est conçu, le modèle est conçu ici, mais c'est créé ailleurs. C'est
coupé ailleurs.
Coupé ailleurs. Ça vient de l'Asie, tout ça.
Comme Sandrine disait. Là. Merci. Mais comme Sandrine disait, tu sais, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que c'est plus payant pour nous, en toute honnêteté, si on ferait en Asie, il y aurait plus d'argent à la fin de l'année, là, il y aurait plus de profit, c'est sûr. C'est vraiment un choix, ça fait partie de nos valeurs, parce que c'est pas pour les sous qu'on fait ça, parce que c'est sûr que c'est plus dispendieux fabriqué ici, ça c'est sûr et certain. Puis on n'a pas accès à tout... en Asie, il reste quand même extrêmement bon. Là, c'est pas juste négatif. Là. Au contraire, il y a des très, très bonnes usines de fabrication. Les plus grandes marques du monde fabriquent là-bas. Quand on a des produits qui sont un peu plus complexes, ben, c'est facile de fabriquer là-bas. Tandis qu'ici, ben, il faut rester un peu dans la simplicité. Ben, c'est pour ça que nos cils seront plus simples là, à ce moment-là. mais ça me dérange pas. Quand je me couche le soir, tu sais, j'ai vraiment l'impression de faire une différence. Puis si à ce moment-là, je dois canceller quelques détails sur un style en particulier pour justement pouvoir produire ici, bien, je choisis de prendre cette route-là. Là.
Ah oui.
Mais tu vois, Cynthia, moi, je suis renchérie sur ce que tu viens de dire. Ça coûterait moins cher, en effet, de produire en Chine. Je vais te dire la même chose. C'est que moi, s'il n'y avait pas toute l'éco-conception en arrière et tout le processus qui est très, très optimisé, j'arriverais pas à être compétitive. Nous, on fabrique directement ici à Chambly, mais si tu visites nos installations, il y a des gens qui disent, ils voient les robots, puis ils disent, mon Dieu, on se croirait dans une usine de Toyota.
Oui.
Nous, c'est tout robotisé, parce que ça nous a permis justement d'aller encore plus loin dans notre niveau d'optimisation. Puis, en effet, il y a des concurrents qui font fabriquer en Chine, qui font venir des gros containers. Ça fait aucun sens écologiquement parlant, évidemment. Mais si on compare avec un manufacturier conventionnel ici, en effet, il y a un gain économique à le faire en Chine. Mais pour fabriquer ici, nous-mêmes, on ne fait pas les choses conventionnelles comme en Chine. Mm-hmm. Et si j'envoyais mes produits à faire fabriquer en Chine, mais qu'ils utilisaient full de sacs de plastique, full de carton, qu'ils n'étaient pas robotisés, etc., ils n'arriveraient pas à être compétitifs avec moi. Parce que la main-d'œuvre, dans mon processus, la main-d'œuvre, leur coût à eux, il n'y en a pas. Nous, on est moins de 40 employés pour fournir plus de 100 millions de fioles, médicaments et de piluliers à travers le Canada au complet. Ça tourne 24 heures sur 24, puis de nuit, ils sont deux.
Ils n'ont pas la COVID, les machines.
Non. De nuit, ils vont être deux parce que toutes les machines sont capables de fonctionner avec les robots. Puis la personne est là en assistance aux robots. Et s'il manque quelqu'un, ça n'arrêtera pas les robots.
Wow! Mais tu sais, c'est sûr que toi, tu as du gros volume, que probablement, tu sais, Reiki, je pense que vous avez beaucoup de succès, mais avant que tu arrives à vendre pour...
Non, je suis pas rendu là. On n'est pas rendu là.
Quand tu seras rendu là, tu mettras en place des robots.
Puis... Oui, des robots pour coudre les filles.
Mais justement, tu sais, c'est quoi les défis à maintenir ces standards-là? Là? Tu sais, parce que, Sandrine, tu dis... les Chinois pourraient même pas m'accoter parce qu'ils n'ont pas d'enjeu de main-d'œuvre. Nous, on n'a pas d'enjeu de main-d'œuvre par rapport à eux et tout ça. Comment vous faites pour maintenir des prix qui sont justement. C'est dans des trouvailles comme ça, c'est en étant plus.
Moi, j'inviterais même Cynthia à commenter. Moi, je trouve que nos produits, justement, quand on réfléchit bien à notre processus puis qu'on est capable de bien mesurer notre impact, moi, je crois qu'on ne devrait pas être au même prix que d'autres produits similaires parce que la véritable valeur de notre produit, moi, j'ai souvent, je ne vends pas un emballage. Moi, je vends une opportunité de faire un virage vert. Je vends une possibilité pour les pharmaciens de devenir des acteurs de changement et d'avoir véritablement un impact que je vais mesurer pour eux sur l'environnement. Donc, c'est là où ça a une valeur, ça, d'être capable de dire, voilà ton impact, voilà le nombre de GES que tu as sauvé dans le courant de l'année en utilisant mes produits. Ça a une valeur pour les pharmaciens parce que quand ils communiquent ça avec leurs patients de l'autre côté, ils ont une traction, ils ont une loyauté de leurs équipes. Les équipes sont plus engagées, ils savent qu'ils font une différence, qu'ils ont un impact en remplissant les fioles de médicaments. Et le patient de l'autre côté, c'est un consommateur, c'est quelqu'un qui est sensibilisé aux problèmes d'environnement et qui va véritablement être beaucoup plus attaché à sa pharmacie et à son pharmacien s'il le perçoit justement comme un acteur de changement, comme quelqu'un qui prend au sérieux les enjeux des emballages à usage unique qui nous sont proposés dans tous les sens. Et c'est là où, oui, on est capable d'être financièrement compétitif, mais en même temps, on a une valeur de plus.
Ouais.
Je suis désolée, mais c'est normal que ça coûte plus cher.
Ouais.
Toi, c'est la valeur perçue qu'il faut qu'on modifie. Les gens ne sont pas nécessairement prêts à payer la juste valeur des avantages qu'on leur offre.
Toi, qu'est-ce que tu en penses dans tes...
Ben moi, j'allais dire, c'est sûr qu'on a des produits complètement différents. T'sais, nous, on est vraiment liés aux clients qui vont nous acheter parce qu'on est une boutique en ligne. Donc, nous, on connaît même beaucoup de noms de nos clientes qui reviennent souvent. Mais c'est sûr que, au niveau des profits, c'est sûr que quand on monte nos prix, ben, je décide de moins en faire parce que j'ai comme pas le choix. Il y a quand même une limite de prix que je dois aller, dans le sens que je peux pas vendre un legging non plus comme ça à 50$. Je dois malheureusement me comparer avec un Lululemon de ce monde ou un Lowley de ce monde, tu sais, pour être sensiblement en compétition avec eux, même si mon produit est fait ici au Québec, même s'il est fait à partir de fibres recyclées, il y a une limite psychologique que je dois respecter pour la cliente. Donc, je dois sensiblement avoir les mêmes prix qu'eux. Donc, je décide à ce moment-là de faire moins de profit par produit. Et je décide de ne pas faire certains produits, comme par exemple la brassière sport, que ça fait longtemps qu'on s'en fait demander, que je faisais un petit peu avant, là, vraiment très, très simple, mais que moi, j'aimerais beaucoup faire. Mais c'est le genre de produits que je ne peux pas fabriquer ici parce que, premièrement, on n'a pas toute la machinerie disponible pour faire le genre de brassière sport que j'aimerais faire. Encore une fois, pour rester dans la simplicité, mais c'est surtout au niveau du prix. Parce que si je veux vraiment faire des vrais brassières sport comme j'aimerais les faire, mais il faudrait que je les vende comme 160$ retail. Je peux pas faire ça.
Les vendre, c'est ça. Ouais.
C'est ça. C'est comme plus dispendieux faire une brassière sport que faire un legging. Donc, je dois avoir à ça. Je choisis de faire certains produits et certains autres non. Et je choisis de faire moins de profit par produit, justement, pour respecter mes valeurs et continuer de faire ce qu'on fait ici. Mais je pense pas que je pourrais vendre un legging 150$, même si ça devrait être sensiblement le prix parfois. Là,
ah, ouais.
Ben, honnêtement, j'avoue que moi, une fiole de médicaments, ça vaut 6 sous. Je n'arriverai pas à la vendre 6$. Hein. On s'entend que le jeu, jeu à moi dans les montants d'argent, là, il est plus petit.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas non plus le même, du tout le même secteur d'activité.
Donc... Non, c'est ça, exactement, oui.
Parce qu'on parle difficilement à ce niveau-là. Tantôt, je ne sais plus si c'est laquelle de vous deux, je pense que c'est Sandrine, tu disais, tu sais, ça va jusqu'à nos employés qui sont fiers de, tu sais, d'avoir l'impression qu'ils contribuent aux autres aussi. Comment c'est, justement, est-ce que c'est tous vos employés, est-ce que c'est un prérequis quasiment pour embaucher vos employés qu'ils aient les mêmes valeurs que vous?
Ça, pour moi, ça c'est super clair. Moi, je dis tout le temps, si tu viens passer une entrevue avec un Hummer chez nous, t'es sûr que t'as pas la job. Puis c'est vraiment pas une blague parce que tous les bureaux ont des fenêtres sur le stationnement. Fait que quand quelqu'un vient en entrevue, c'est la première chose que tout le monde regarde, c'est quoi son auto? Puis c'est en effet, c'est quelque chose de super important. C'est important pour... On dit souvent, on embauche des gens pour leurs compétences, puis on les congédie parce que les valeurs ne fitent pas. Mais moi, je pense que quand on a une entreprise à mission, quand on a une entreprise qui fait du développement durable, je pense que nos valeurs sont tellement fortes dans la structure même de gestion de l'entreprise que ça devient encore plus important de bien choisir les gens avec qui on va travailler, de s'assurer qu'il y a un fit de valeur parce que c'est ça qui va propulser l'innovation puis ça va continuer à nourrir l'entreprise dans sa mission. Et c'est sûr que c'est super important puis ça crée, oui, une culture d'entreprise, mais il y a vraiment un engagement qui est essentiel dans une entreprise à mission comme ça.
Puis toi, Cynthia?
Moi, c'est un peu la même chose, en fait, parce que pour notre équipe, je dirais que j'ai comme la moitié de mon équipe qui sont des mamans, qui sont à peu près comme mon âge. Puis après ça, j'ai l'autre moitié de mon équipe qui sont un peu plus jeunes, donc vraiment en bas de 30 ans, là, tu sais, je parle de même 22, 24. Donc, c'est tellement beau de voir comme les nouvelles générations, en tout cas pour ma part, au niveau de mon bureau, c'est pas comme quand nous, on était jeunes. Eux autres, ils sont baignés là-dedans, l'environnement, tu sais, ils savent, donc ils font déjà attention. C'est sûr que les valeurs, pour moi, c'est important. Quand je les ai passées en entrevue, on en a discuté, puis c'est sûr que ça fait partie de leur réalité, eux, tu sais. Et même chose pour les mamans, hein. On pense à la planète pour nos enfants. On essaie de faire, ça fait longtemps qu'on fait du recyclage, Donc, c'est pour ça que, oui, donc mes employés, c'est sûr qu'il y a des grandes valeurs. Par contre, c'est sûr que pour moi, je suis végane. Fait que, tu sais, c'est pas, je peux pas non plus demander à mes employés de l'être. J'en ai même pas une qui est végane, mais tu sais, je pourrais pas demander ça parce que c'est une petite part là, dans... au Québec. Ben,
je peux t'en prêter quelques-uns, moi, j'en ai deux. Trois, là.
Mais non, mais c'est parce que ça, on passe tellement de temps au travail que quelque part, il faut qu'on partage des valeurs similaires, je pense.
C'est sûr.
Ben oui, tout à fait. Mais...
il y a un énorme respect, tu sais, sans juste parler de valeurs, mais tu sais, nous autres, moi, je viens du milieu de la mode, puis tu sais, c'est un milieu qui est quand même difficile, là. Je me souviens, dans mes débuts, je travaillais souvent jusqu'à 11h du soir, puis tu sais, c'est des patrons, souvent, c'est des hommes, puis ça reste quand même un métier qui est difficile, là. Beaucoup d'heures d'overtime, tout ça, mais c'est pour ça que moi, quand j'ai créé ici, je voulais une culture nouvelle, tu sais, je voulais des bureaux avec des grandes fenêtres, je voulais donner une liberté aussi aux employés, je voulais avoir du fun, je voulais les inviter à faire des activités, tu sais, je voulais leur fournir le café, tu sais, c'est juste des petits détails, mais qui font une énorme différence à la fin de la semaine, puis que la culture est belle, puis que tout le monde s'entend bien, tu sais, quand on rentre travailler ici, on a envie d'être ensemble, on a envie de travailler ensemble, on a envie de connaître l'autre aussi, de partager, de dîner ensemble. Donc, ça, c'est important au-delà des valeurs aussi, mais juste d'avoir un respect mutuel entre chaque personne qui est autour de nous, que de rentrer ici et de se sentir comme dans une famille, c'est beau. Ouais.
Avez-vous une certification? Je pense, toi, t'es B Corp, Sandrine, non, c'est ça?
Oui.
Nous, on est en train de la faire, oui, c'est ça.
Ah, en train de la faire?
Oui, c'est ça. C'est un long processus. On est en train de la faire. Sinon, je certifie Reprieve et Sorona aussi. Mais B Corp, on est en train de la faire.
C'est un beau processus, B Corp, oui. Parce que ça pousse. Nous, on était les premiers, et on l'est encore, les premiers manufacturiers d'emballage plastique en Amérique du Nord à avoir la certification B Corp, donc à être capable de se rendre au bout de ce processus-là. Puis c'est très, 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 très invasif. Je ne sais pas où est-ce que tu es rendu dans le processus, Cynthia, là, mais quand tu penses que tu as terminé, il t'explose 46 000 autres questions que ça finit comme pas. Mais c'est un beau processus parce que ça fait... Là, on ne parle plus de développement durable. Là, on parle véritablement de RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise. Puis c'est là où, moi, ce que j'aime essayer de faire réaliser à des entrepreneurs, souvent, c'est vous ne réalisez pas à quel point vous avez un outil de transformation de la société hyper puissant avec votre entreprise. Fait que c'est de s'assurer, justement, le B Corp, c'est Benefic Corporation, s'assurer que toutes ces belles démarches-là qu'on met à l'intérieur de notre entreprise, qu'on soit capable de le communiquer adéquatement puis de continuer à faire évoluer l'entreprise pour qu'elle soit bénéfique. Qu'elle soit bénéfique dans ses pratiques de gouvernance, dans son impact économique, mais surtout dans la communauté, dans la société, etc. Et on se connaît, Julie, parce que j'ai des implications dans la chambre de commerce, ces choses-là, mais moi, je dis tout le temps, j'ai aucun client, moi, dans la chambre de commerce. Je suis pas là pour faire des affaires. C'est pas ça du tout. Mais c'est de dire, il faut à quelque part qu'il puisse y avoir justement une réinjection, en fait, un peu de notre énergie et de nos idées, de nos valeurs à l'intérieur des communautés pour pouvoir faire un changement durable dans la société.
Mais c'est ça, tu dis ça, puis c'est drôle parce que la question de B Corp m'est venue à vous entendre parler, mais Cynthia a parlé aussi que c'était beaucoup plus que du travail ou tout ça. Tu voulais créer un environnement, une famille, ou tu sais, c'est inclus là-dedans. Je veux dire, est-ce que c'est implicite que ça aussi, ça s'est pris en considération dans l'obtention d'une certification, la façon dont on traite nos employés?
Hein, c'est ça. Oui. B Corp, c'est très, très, très orienté là-dessus. Tout ce qui se passe au niveau de nos employés, les conditions de travail, encore une fois, c'est toujours de démontrer qu'on est au-delà des standards de l'industrie. Donc, de montrer à quel point est-ce qu'on est des leaders dans des initiatives qui sont nouvelles, dans des tendances qui sont innovantes.
Donc, c'est un travail constant.
Oui, c'est constant, B Corp.
Qu'est-ce que tu allais dire, Cynthia? J'ai vu.
Non, rien, non, je me suis juste avancée avec ma chaise. Désolée.
Non, c'est beau. Est-ce que, ben justement, la pandémie, qu'est-ce que c'est venu faire? Comment c'est venu affecter soit les habitudes de gestion de votre entreprise, comme les habitudes de consommation? Est-ce que vous avez senti que... C'est deux questions, finalement. Est-ce que vous avez senti que ça avait changé les habitudes de consommation, tiens, de vos produits?
Bien, oui. il y a trois... Moi, je dirais il y a trois éléments. Moi, j'ai eu de la chance. Mon marché n'a pas été ébranlé par la pandémie, dans le sens où, malheureusement, tristement, les prescriptions de médicaments, ça ne s'arrête jamais. Puis c'est même... Je dis tristement, là, mais c'est parce que plus ça va mal, plus il y a de consommation de médicaments. Fait que c'est un ratio qui est un peu décourageant. Mais donc, nous, c'est sûr que ça a été business as usual. On a continué à fonctionner. On a vécu une crise du papier toilette, là, c'est-à-dire que là, tout le monde a eu peur de manquer de médicaments. Fait qu'il y a eu une explosion de demande. Puis après ça, c'est complètement revenu à la normale parce qu'il n'y a véritablement pas plus de prescriptions de médicaments. Là, où, ça croît, mais c'est toujours égal, c'est toujours pareil. Fait que nous, on a eu cette chance-là que tout notre développement a continué. Tous nos gens se sont vraiment retroussés les manches, ont beaucoup, beaucoup participé dans les mesures de prévention, etc., pour s'assurer de pouvoir continuer à venir travailler, à être tout le temps là. Puis, une chose qui est importante, c'est que moi, je pense, nous, étant donné qu'on est une assez petite équipe, on avait déjà mis en place le télétravail, puisqu'on n'avait plus de place dans les bureaux déjà depuis longtemps. Fait que le télétravail, c'était déjà là. Plus de représentants sur la route, c'était déjà là parce qu'on croyait au marketing web. Donc, on était déjà là. Et donc, à être au-dessus de la vague, finalement, quand la vague est arrivée, ben, ça nous a juste poussé plus loin. Plus vite, plus loin, sur des projets qu'on avait déjà, qu'on était déjà rendus là. Ça a juste été un petit coup d'accélérateur. Fait que pour nous, la pandémie était pleine d'opportunités. Ça nous a permis aussi de bien positionner le fait qu'on est local, parce que oui, ça, c'est une des choses qui a changé dans les mentalités, c'est de réussir à se dire, je veux plus être sujet à des pénuries, à des coupures, à des back-orders, parce que j'ai aucun contrôle sur ma logistique, ben nous, on était là pendant ce temps-là. Nous, on a été en mesure de fournir tout le monde puis d'amener un meilleur contrôle du réseau de distribution de façon générale. Donc ça, c'est le gros changement qu'on voit là, dans l'après-pandémie, c'est que les gens n'ont plus envie d'aller chercher un container en Chine.
Ça, c'est vraiment bien. C'est un des aspects positifs, effectivement, de la pandémie. Puis toi, Cynthia, tout le monde a eu envie de s'habiller en mou. Je me disais que tes affaires, ça a fait ça comme
ouais,
ça.
Moi, ça a monté en flèche, tout a explosé, là, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment ça que ça a fait. Du jour au lendemain, j'ai manqué de stock. Puis en plus, mes usines fermaient à ce moment-là, parce que, bon, toutes les usines manufacturières fermaient. Donc, j'ai été à un moment où j'ai pas pu faire aucune marchandise. Donc, quand ça l'a repris, bien, j'ai doublé de quantité, parce que l'accent était sur acheter québécois, encourager les designers québécois, tout ça. Donc, notre nom est vraiment ressorti souvent. Puis, Oraki, ben c'est comme j'ai l'impression parfois quand la cliente en achète un, ben elle a de la difficulté à rester juste avec un. Fait que les commandes revenaient. Donc ouais, c'était une période difficile, la COVID. Moi, j'étais à la maison avec mes deux jeunes enfants, donc là, je devais m'occuper d'eux et en plus comme rouler l'entreprise qui a pris une grosse expansion. J'ai engagé pendant la pandémie pour vous dire. Donc ça a été bénéfique pour nous, malheureusement, là, parce que c'est une période plate pour tout le monde, mais pour nous, ça a été super bon. Ça nous a mis sur la map, là, si on veut.
Le gros défi, moi, je trouve, ça a été, par contre, de continuer à faire vivre nos valeurs adéquatement, parce que là, tout d'un coup, c'est pas juste un peu de télétravail, c'est devenu une grosse séparation, une grosse distance. Puis, tu sais, Cynthia, tu parlais des gens, tu sais, qui ont envie d'arriver le matin puis de travailler ensemble, etc. Nous, c'est là-dessus que la pandémie, ça a été excessivement difficile. Nous, on avait l'habitude de tous s'asseoir en même temps, luncher ensemble, etc. Là, on a perdu un gros morceau de fun. ça revient tranquillement. Mais ça a été un gros deuil, nous, à faire. Ça a été
le noyau d'équipe, là.
Oui, la proximité qu'on avait, d'essayer de faire vivre ça en Zoom pendant 2 ans, hein, ça a été long.
Hey, le temps file à une vitesse grand V. Là, Gabrielle, elle m'envoie des petits messages par en dessous. Avant de se laisser, parce qu'on pourrait parler vraiment longtemps, c'est tellement intéressant ce que vous faites. Ce serait quoi votre plus grande fierté depuis le début de vos entreprises respectives? Qu'est-ce que vous dites, là? Est-ce ça, là, à travers tout mon parcours, là, jusqu'à présent, là, c'est ma plus grande fierté?
Bon, je te laisse aller. Vas-y.
Moi, c'est des commentaires que je reçois du marché. Pas nécessairement de clients, mais de gens dans le milieu de la pharmacie, du pharma, et qui vont dire que École of Pharm, c'est un disruptor. Moi, ce que je me rends compte, c'est que j'ai dérangé un marché qui était vraiment très archaïque, très encrouté. Je l'ai dérangé. 12 ans plus tard, je sais que je continue à déranger. C'est ma plus grosse fierté. C'est de dire, l'objectif qu'on avait là, de changer le monde de la pharmacie, ben c'est ça qu'on continue à faire, puis on en a des preuves à chaque année. On regarde la façon dont on est perçu sur le marché, puis on se dit, ben, c'est ça. On était les petits anarchistes. Ben, oui. C'est encore ça, puis c'est le fun de se sentir encore comme ayant un gros poids là, dans la balance, même si on est tout petit.
Mmh. De quoi être fière. Et toi, Cynthia?
Ben, moi, quand j'ai commencé Oraki, je voulais seulement faire une belle marque fabriquée ici au Québec et fabriquée à partir de fibres recyclées, mais il s'est passé vraiment quelque chose qui m'a surpris, c'est que on reçoit tellement de témoignages et de messages de femmes qui ont confiance en elles en portant nos vêtements, mais des témoignages des fois vraiment qui m'apportent des larmes aux yeux, là, des femmes qui ont traversé des périodes extrêmement difficiles, qui disent « Ah, moi, depuis que j'ai découvert Oraki, je porte vos vêtements, je me sens forte, je me sens belle. » Puis même au niveau des maillots de bain, comme par exemple, on fait des maillots de bain, mais on les fait vraiment pour les femmes québécoises, les femmes de tous les jours qu'on voit dans les rues. Là, c'est pas... Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écrivent « Wow, les maillots sont faits vraiment pour nous, pour des corps normaux, puis tout ça. » Puis on reçoit des messages de « Ça fait 20 ans que je n'ai pas porté de maillot. » Ou « Ça fait 3 étés depuis que j'ai mes enfants que je ne me mets pas en maillot parce que je ne suis pas bien dans ma peau. » Puis là, à cause d'Oraki, je peux enfin jouer dans le sable. T'sais. Puis ça, c'est un là, parmi des milliers. Quand ça va mal dans l'entreprise ou quand je suis un petit peu fatiguée ou quand je suis un petit peu... Moi, j'ai moins le goût. J'ai juste à lire quelques messages comme ça, puis ça me redonne l'énergie, ça me redonne le courage de continuer. Puis, tu sais, c'est la plus belle chose. Jamais j'aurais pensé à être où on est aujourd'hui, mais de recevoir des si beaux témoignages de femmes qui portent nos produits. Donc, pour moi, c'est ça la plus grande fierté de l'entreprise.
Mmh. Ben, je suis en train de me magasiner un maillot.
T'es sérieuse, t'es en train de...
Vraiment, je suis vraiment sur le site, là. Je suis vraiment là.
Ça part vite.
Ah oui, hein, j'imagine. C'est ce que ma collègue me disait parce qu'elle connaît bien Oraki,
okay.
Gabrielle, puis elle me disait quand il lance quelque chose, il faut tout de suite
être... C'est notre plus grand défi. C'est vraiment notre plus grand défi. Là, on repartira dans un autre sujet, là, mais c'est vraiment ça notre plus grand défi, c'est de répondre à la demande, malgré qu'on est fait ici dans les usines québécoises. Il y a une limite de marchandises que je peux faire. Donc, on ne peut pas répondre à la demande, la grande demande pour le moment. Sur certains produits, oui, mais sur d'autres, non. Des maillots, ça reste quand même des articles qui sont compliqués à faire. Donc, c'est vrai, quand on a un lancement, généralement, des fois même en 1 minute, 5 minutes, 1 heure, il n'y a plus rien.
Ouais, c'est vrai. Je vois ça, là. Il y a des épuisés tout partout. Qu'est-ce que je vais faire cet été?
Eh bien, gros, gros merci, mesdames. Dans le fond, ce que vous faites, c'est avec courage et conviction, vous aider, vous contribuer à changer notre monde. Que je vous en remercie profondément et sincèrement. Merci beaucoup pour la belle entrevue.
Et ceci met fin à En prenant l'apéro, en espérant que vous avez apprécié.
À la prochaine!